des vies et des hommes.
Aurélie Valogne, classée parmi les 10 auteurs les plus lus en France, était à Laval ce vendredi. Pour sa première fois en Mayenne, elle a passé la journée au lycée Haute-Folis et a partagé un moment privilégié avec la classe de seconde Agora, qui expérimente un projet pédagogique basé sur l'un des chapitres de son roman « Né sous une bonne étoile » à l'initiative de Jérôme Varoux. Les uns après les autres, les élèves de la seconde Agora se sont présentés à elle, micro en main, et lui ont posé la question qu'ils avaient préparée. Le sourire aux lèvres et sans langue de bois, elle leur a répondu et a profité d'un moment chaleureux avec chacun d'entre eux. De son auteur préféré à ses inspirations, en passant par ses talents de cuisinière, les sujets sont vastes. Nous vous proposons un petit tour d'horizon des questions posées pour que vous reviviez la rencontre entre Aurélie Valogne et les élèves de la seconde Agora, comme si vous y étiez.
Alors, moi, je m'appelle Lara, et avez-vous des frères et sœurs ?
J'ai un petit frère, il a 3 ans de moins que moi, donc il est grand maintenant, 35 ans. Et du coup, c'est un petit peu le Gustave de Né sous une bonne étoile, où vraiment le parcours scolaire a été compliqué. On était dans une cité HLM un peu compliquée, on se faisait un peu embêter en rentrant chez nous. Bref, il y a des choses qui arrivaient et c'était un peu notre vie.
Bonjour, donc je m'appelle Quentin. Est-ce que les pièces de théâtre, les livres ou certaines musiques vous ont inspiré pour écrire vos romans ?
Tout à fait, excellente question. Très très bonne question. La Ritournelle, c'est le tout dernier, je l'ai écrit avec Orelsan. Donc tout l'album d'Orelsan, le dernier, hein, Civilisation. Il y a un peu plus d'acidité, d'agressivité dans le roman de Pic, parce que le ton aussi de l'album qui m'accompagnait, il y avait un peu de ça. Et là, le nouveau que j'ai écrit, c'est le 9e, il est plus sombre et je l'écris avec Sofiane Pamar, un pianiste. Et c'est... Voilà, je suis dedans toute la journée et ça me permet d'être stable en termes d'émotion. Et je fais un truc un peu relou, mais j'écoute en boucle, genre pendant 6 mois.
Je vous remercie beaucoup.
Merci Quentin.
Bonjour, moi je m'appelle Noémie. Quel est votre auteur préféré ?
Alors merci Noémie, parce que c'est vrai que sur les livres, c'est encore pire que sur le reste, je pourrais parler des heures, mais je ne vais pas le faire. En fait, j'aime lire les journaux intimes, donc par exemple de Virginia Woolf. J'aime bien aussi, là j'ai lu Anaïs Nin. Donc dès que je peux plonger dans la vie de quelqu'un qui raconte ses blessures au fur et à mesure des années, et je me dis, bah tiens, je ne suis pas la seule à vivre ça, ça m'aide pas mal, parce que le métier d'écrivain, c'est un métier solitaire, où on n'a pas vraiment de collègues, et on est toute la journée tout seul, et personne n'attend rien, et on se dit, bah, il faut se mettre soi-même un coup de pied ou derrière, et je doute, et chaque ligne que j'écris, j'ai l'impression que c'est nul. Donc en fait, d'avoir d'autres personnes, et notamment Annie Ernaux, elle a un livre qui s'appelle Atelier Noir, qui est son journal d'écriture, c'est-à-dire que quand elle écrit un roman, elle prend des notes à côté, elle écrit aussi tous les doutes qu'elle a pendant qu'elle prépare ses romans. Et donc de voir que je ne suis pas la seule à me faire des nœuds au cerveau sur l'écriture et sur mes romans, ça m'aide pas mal. Et après, donc effectivement, un ou une auteure que j'aime beaucoup, donc je garde Annie Ernaux forcément, et j'aime beaucoup Romain Gary, notamment La vie devant soi. Merci beaucoup Noémie.
Bonjour, moi c'est Aude. Je voulais savoir, qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir écrivaine ?
Merci Aude pour la question. Je fais un... Parce qu'à chaque fois, je réponds en faisant 50 détours, qui est vraiment le principe de ma pensée. Et je m'excuse par avance. Ce qui m'a donné envie d'être écrivaine, je pense que c'était le premier livre que j'ai lu déjà, à 6 ans. C'était L'Histoire sans fin. C'est l'histoire d'un petit gamin qui vole un livre dans une librairie et qui va s'enfermer dans le grenier de son école. Il ne va pas en classe. Et il plonge littéralement dans l'histoire. Il y a une princesse dans l'histoire, il faut la sauver. Et il tombe dans le livre et il va vivre l'histoire. Et d'un seul coup, je me suis dit, mais c'est génial tout ce qui peut se passer avec un livre. Et j'adorais faire ça. Et puis j'ai continué à lire, j'ai piqué des policiers à ma mère. Et puis j'étais là à essayer de comprendre comment j'avais pu penser dans les 10 petits nègres que c'était lui le méchant, alors qu'en fait, pas du tout. Et je refaisais toute la trame à l'envers. Et là, je me suis dit, j'adore ça, la façon dont le romancier peut... préparer son intrigue pour te faire croire que, et en fait pas du tout. Et j'avais vraiment envie de pouvoir construire un jour des histoires. Et puis rapidement, je me rends compte que tout ce que je sais, je l'ai appris avec l'école, qu'il n'y a pas d'école pour devenir écrivain, donc ça ne peut pas être un vrai métier. Je ne connais pas d'écrivain, femme, jeune, vivante, qui existent aujourd'hui, qui vivent de leur plume. On aurait tendance à dire, attention, tu ne gagnes pas bien ta vie, tu peux pas vivre de cette passion-là. Donc rapidement, je me suis dit, non, écrivain, ça ne doit pas être un vrai métier à part entière. Il faut peut-être faire autre chose à côté. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on aime écrire ? tiens, je vais être journaliste, j'aimerais bien être journaliste. Donc c'est ce que je mettais sur ma fiche de renseignement au collège. Et puis j'ai une amie qui m'a dit, mais je t'ai jamais vu lire un journal. C'est vrai que dans ma famille, on ne lit pas les journaux. Du coup, je ne vais pas faire journaliste. Et donc, j'ai décidé de faire des études un peu débiles. Et j'ai oublié ce rêve-là. Et je me suis dit, bah non, en fait, je vais faire là où j'atterris. Et un jour, j'ai une cousine qui a fait du même âge que moi, qui a fait un cancer du sein. Pas bon du tout, mais du tout. Ça, c'est mal fini. Et toutes les nuits, je voyais ma tombe en cauchemar. Et c'était écrit Aurélie Valogne. Et en dessous, c'est écrit écrivain. Mais moi, je ne faisais pas ça. Je n'avais jamais écrit une ligne de ma vie. Je n'avais jamais écrit de journal intime, rien du tout. Et je me suis dit, mais comment ça, c'est quoi ce truc? Pourquoi? Et en fait, à ce moment-là, mon mari a été muté à l'étranger, donc de Paris à Milan. Et j'ai dû démissionner pour le suivre, alors que j'étais la prochaine sur la liste pour être promue. Donc vraiment dans une course débile de carrière. Et je me suis dit, bah voilà, j'arrive en Italie, j'ai un petit bébé sous le bras. Je sais déjà que je ne suis pas une super maman. Ce n'est pas là où je me sens le plus épanouie. Je l'ai mis à la crèche. Il avait moins d'un an, on m'a regardée comme une mère indigne parce qu'en Italie, on est censé s'arrêter pour ses enfants. Et je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais prendre des cours d'italien pour retrouver un travail. Et tous les matins, avant mon cours d'italien, je vais commencer un projet pour moi, le rêve de petite fille que j'avais oublié. Je vais écrire mon roman. Et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Et pendant 4 mois, je n'ai dit à personne que j'écrivais. Et j'ai écrit Mémé dans les orties. Et quand je sentis que j'allais abandonner parce que je voulais tout retoucher, tout arrêter, j'ai dit à mon mari, bah, dans un mois, je te fais lire quelque chose. Et là, je savais que j'avais plus le choix et qu'il fallait que j'aille jusqu'au bout. Et il a lu, il a dit c'était super. Et je ne l'ai pas cru.
Bah, bonjour, je m'appelle Omran. Est-ce que vous vivez de votre métier ?
Maintenant, je vis de mon métier, ouais, complètement. Ce qui n'est pas forcément le cas de tous ceux qui commencent. J'avais la chance d'avoir un très bon salaire aussi dans le travail que je faisais à côté. Parce que quand j'ai écrit mon premier roman, j'étais dans une période de transition, mais j'ai vite retrouvé un travail. Et donc, mes 4 premiers romans, j'avais mon travail de directrice marketing à côté. Et un jour, en fait, je me suis rendu compte que plus le deuxième bébé, plus tous les voyages à l'étranger, j'avais perdu genre 10 kilos sans m'en rendre compte. Et on m'a dit, super ton régime. Et en fait, c'était juste que j'étais en épuisement professionnel et il fallait faire un choix. Et je me suis dit, mais sur mes bouquins, où c'est mon vrai nom, je passe 1 minute par jour à prendre des décisions de couverture, alors que je passe des journées entières de réunions pour des M&M's. Bref, j'avais un problème de valeur. Et donc, à ce moment-là, j'ai arrêté de mon travail autre et je me suis consacrée à mes livres. Et je gagnais à peu près autant. Et ensuite, effectivement, bah, ça s'est un peu emballé quand je suis revenue en France. Et maintenant, je gagne très bien ma vie. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, sur un livre poche, tu touches 5% du prix de vente. Donc, sur un livre vendu 8 euros, c'est en gros 30 centimes. Donc on a beau dire vendu 1 million, super, mais c'est pas 1 million dans ta poche. Et après, sur les grands formats, c'est plutôt autour de 10%. Mais sachant que moi, je vends quasiment 80-90% de poche.
Donc je m'appelle Laure, et combien avez-vous écrit de livres ?
Alors au total, j'ai écrit 8 livres, et là je suis en train d'écrire le 9e. Donc le premier, Mémé dans les orties. Le deuxième, son premier nom a été Nos adorables belles-filles. Et quand il est sorti en poche, il a été rebaptisé En voiture Simone, parce que Nos adorables belles-filles n'était pas le titre définitif. Le troisième, c'est Minute papillon. Le quatrième, Au petit bonheur la chance. Le cinquième, La cerise sur le gâteau. Le sixième, que vous connaissez, Né sous une bonne étoile. Le septième, Le tourbillon de la vie. Et le huitième, qui vient de sortir, La ritournelle. Merci beaucoup.
Merci. Moi, c'est Samuel. Comment naît votre inspiration pour une histoire, un personnage, un environnement ?
Alors, merci Samuel. Comment naît l'inspiration ? En fait, moi, j'ai plus un problème de... Ça déborde de partout, trop de créativité. Tout à l'heure, on déjeunait avec Jérôme et je racontais un peu comment pouvait naître mon inspiration. Et en même temps, je le regardais et je me disais, alors ça, je pourrais piquer un personnage, ce qu'il est en train de dire. En fait, tout m'inspire parce que je cherche les gens vrais, je cherche les situations qu'on peut tous vivre dans notre quotidien. Donc, Né sous une bonne étoile est vraiment né le jour où l'enseignante de CP de mon fils m'a attrapée au portail en me disant, votre fils est lent, on a un problème avec lui. Et là, je me suis dit, alors là, je laisserai personne enfermer des enfants. Enfin, je n'ai pas assez de pouvoir pour faire ça, mais ça a été mon cri de rage et mon cri de colère et mon grand cri d'amour pour les profs qui font très bien leur travail et que tous les élèves devraient rencontrer un jour dans leur vie. Et donc ça, c'était né comme ça. Là, celui-ci, Le tourbillon de la vie, il est né pendant le confinement, quand on ne pouvait plus voir nos grands-parents. Et je me suis dit, mais ils sont privés de nos visites, ils sont tout seuls. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de nous oublier ? Et est-ce que les souvenirs qu'ils sont tout seuls à avoir de leur côté, parce que parfois, moi, je retiens des choses, mais elle a d'autres souvenirs de moi avec elle petite, est-ce qu'ils ne sont pas en train de s'effacer à jamais ? Et donc, je me suis dit, j'ai envie de parler des souvenirs qui s'effacent et quel type de personnage pourrait avoir le plus de difficultés s'il devait avoir sa mémoire qui part. Et je me suis dit, bah, tiens, un acteur dont le métier est d'avoir une bonne mémoire notamment, ça lui donnerait quoi s'il se voyait partir ? Et si on suivait ses notes et son journal intime ? Et donc, ça a donné Le tourbillon de la vie. Au petit bonheur, la chance, et ça a commencé un jour où mon père m'a dit que les plus belles années de sa vie, ça avait été quand il avait été élevé par sa grand-mère. Et je venais de devenir maman et je me suis dit, bah, attends, le jour où mon fils me dit que sa meilleure partie de sa vie, c'est quand il était chez sa grand-mère et pas avec moi. Et je me suis dit, comment on en arrive là ? Qu'est-ce qu'une mère peut rater ? Et je me suis dit, bah, en fait, je vais raconter l'enfance de mon père. Donc, Au petit bonheur, la chance raconte l'histoire d'un petit gamin dans les années 60 qui est abandonné par sa mère et élevé par sa grand-mère qui n'avait pas du tout prévu de l'élever. Donc, en fait, il y a toujours un point de départ dans ma vie. Je me cache derrière tous mes personnages. Même les pires, il y a toujours un peu de moi. Et en fait, jamais je pourrais raconter l'histoire de quelqu'un. Enfin, j'aurais l'impression de lui voler et puis je ne pourrais pas trop le modifier. Donc l'inspiration, elle est absolument partout. Merci beaucoup pour ta question.
Bonjour, donc moi c'est Alexandre. Quel sera le thème de votre prochain livre ?
Je ne peux pas tout dire. Merci Alexandre pour ta question. Donc le thème du prochain livre, il est beaucoup plus sombre que le tout dernier qui s'appelle La Ritournelle, qui était plutôt une comédie sur un dîner de Noël qui explose. Le prochain, c'est sur l'absence, c'est sur le manque. Je reste toujours sur le thème de la famille et des liens intergénérationnels. Mais je ne peux pas trop dire qui va manquer et pourquoi, mais on est dans une... introspection, alors je peux même pas dire la première phrase sinon ça dit tout, parce que j'ai déjà la première phrase, et on sera plus en, un peu comme des journaux intimes. Donc on suit plusieurs personnages et chacun a sa voix. C'est, en tout cas c'est l'idée de départ, donc encore une fois je risque de faire carrément autre chose. Mais c'est sur un sujet un peu plus sombre, un peu plus comme Le tourbillon, peut-être un peu comme Au petit bonheur, la chance aussi. Voilà, j'ai envie d'aller gratter des émotions où ça va nous rappeler des choses et on sait que ça arrive dans la vraie vie aussi et que ça peut quand même bien finir.
Je m'appelle Thomas. Et combien de temps mettez-vous pour écrire un livre ?
Alors, merci Thomas, c'est une bonne question. Combien de temps je mets pour écrire un livre ? Je m'impose d'écrire un livre par an. Parce qu'en fait, le temps, pour moi, n'est pas un ami. Parce que plus j'ai de temps, plus je doute. Et plus je doute, plus je repousse. Et en fait, quand je sais que chaque année, il sort le 1er mars, et je me dis, bon, du coup, je suis obligée de le rendre en décembre. Comme ça, il l'imprime en janvier. Et puis, les libraires le reçoivent en février. Ce qui est déjà la dernière limite. Et en gros... Je mets 4 mois à faire germer une idée en moi, mais souvent j'ai déjà l'idée avant de terminer le roman précédent. J'écris plein de choses dans des carnets à la main. Je fais un plan, donc je sais quels sont les personnages, comment ils vont évoluer chacun, comment je croise les fils de chacun de leurs histoires. C'est pas français, mais vous avez compris l'idée. Voilà, c'est pas grave, j'écris pas de livre. Et une fois que j'ai tout ce plan, donc chapitre 1, qui est dans la scène, quel est le rôle de cette scène, quel est le rebondissement du chapitre 1, chapitre 2, chapitre 1, etc. Je fais tous mes chapitres, donc j'ai un plan que je fais sur Excel. Et ensuite, je l'imprime à 3, je m'enferme dans une chambre d'hôtel pendant 2 semaines. Et là, je sors pas de ma chambre et j'écris tout mon roman. Sans réfléchir, est-ce que c'est des belles phrases, est-ce que je suis juste une caméra qui fait... Je filme et je fais play dans mon cerveau et je laisse mes doigts sur l'ordinateur aller le plus vite possible. Donc ça, c'est à peu près 2 semaines. Je laisse reposer 2 semaines et ensuite, pendant 4 mois, je retravaille tout. Parce qu'on est passé quand même d'un truc où ça n'existait que dans mon cerveau à ça existe sur du papier, c'est nul, je le sais, mais on va tout reprendre. Et une fois que j'ai ça, je travaille beaucoup, je relis beaucoup les phrases à voix haute pour améliorer la fluidité notamment. Et donc, je prends quasiment 8 mois, je pense, de pure écrite, enfin, de pur travail de texte sur une année de 12, quoi. Et puis, en vrai, mon cerveau n'est jamais éteint. Là, aujourd'hui, dans le train, je pensais encore à quelque chose. Enfin, ce soir, je vais revenir avec plein d'idées de ce que j'ai pu voir, que vous donnez sans vous en rendre compte. Donc, c'est un travail permanent. Mais comme c'est une passion, je n'ai pas l'impression de travailler.
Okay, merci.
Merci Thomas, merci beaucoup.
Je m'appelle Lisea et ma question c'est, vos personnages sont-ils imaginaires ou réels ?
Merci Lisea. Ces personnages-là sont forcément imaginaires parce que je m'amuse avec eux. Si je peux partir de personnages ou de personnes existantes dans mon quotidien, par exemple en voiture Simone, c'est l'intégration d'une... En fait, c'est 3 belles filles qui intègrent une famille et qui ont du mal à trouver leur place parmi 3 garçons, un beau-père complètement macho, une belle-mère qui est très sympathique mais qui a un peu de mal à exister. Du coup, j'ai intégré une famille et ça a été dur. Et ils sont adorables, mais j'ai senti des moments où je ne trouvais pas ma place, où c'était vraiment, je me sentais malheureuse. Et c'est pour ça, en fait, c'est une comédie, mais ça part toujours d'un truc qui... C'était une vraie souffrance à un moment donné. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là ? Pourquoi je me sens seule ? Pourquoi je ne me sens pas soutenue ? Pourquoi... je ne suis pas à ma place, eux ils sont plus bourgeois et mon milieu social n'est pas ça. J'ai découvert plein de choses, bref. Et donc, le beau-père dedans n'est pas mon beau-père, mais il m'a quand même inspiré beaucoup. Et notamment, il était vétérinaire et les assistantes vétérinaires se passaient le livre entre elles. Tu l'as reconnu. Il n'était pas très content. Mais il m'a dit, tu as de la chance, c'est très drôle. Mais il aurait pu m'en vouloir. Donc, c'est inspiré pour plein de comportements. Après, il ne s'appelle absolument pas Jacques. Ça, c'est un détail. Il n'habite pas dans telle ville. Il n'a pas ce métier-là. Il ne fait pas ce genre de réflexion. Mais il pourrait en faire d'autres dans le même genre. Et chaque roman... Les personnages sont la somme d'autres personnages ou de comportements que j'ai pu voir. Donc, c'est jamais quelqu'un qui existe pour de vrai. Et par contre, un jour, j'aimerais bien raconter ma propre histoire. Et alors ça commence à être compliqué parce que je ne sais pas si je dirais elle, si je dis je. Et raconter mon histoire pour raconter mon histoire, ça ne m'intéresse pas. Ce que je voudrais aussi, c'est mettre en lumière ma mère qui m'a élevée d'une certaine manière et qui c'est grâce à elle de plein de choses. Et ma grand-mère aussi qui a joué un rôle fondamental. Et là, potentiellement, ça serait les vrais personnages. Mais même mon prénom, je pense que je ne mettrais pas Aurélie. Peut-être Lily, c'est comme ça qu'elle m'appelait. Merci pour la question, Lisa.
Merci. Bonjour, je m'appelle Emma. Et devez-vous vous documenter avant d'entrer en écriture d'un roman ?
Merci Emma pour la question. Est-ce que je dois me documenter ? Pas pour tous les romans. Le tout dernier, La Ritournelle, parle d'un dîner de Noël qui tourne mal. Là, franchement, je ne me suis pas beaucoup documentée. C'était vraiment l'expérience personnelle où je me suis dit « mais je ne dois pas être la seule à vivre ça chaque année. » On se retrouve une fois par an et une fois par an, on est obligé de se dire des trucs négatifs alors qu'on pourrait juste profiter. Par contre, au petit bonheur la chance qui se passe dans les années 60, il y a eu un gros recherche pour décrire les années 60 que je n'ai pas connues. Donc mon père m'a beaucoup aidée. Je l'ai interviewé, j'étais en Italie, il était en France, par dictaphone. Donc en gros, je lui ai envoyé des questions par email et je lui avais donné un dictaphone et il me répondait en s'enregistrant et il m'envoyait le message. C'était à l'époque où il n'y avait pas encore le dictaphone sur le téléphone. Et il m'envoyait voilà, les petits MP3 et je réécoutais, je tapais tout, j'ai fait du tri, j'ai gardé ou pas certaines choses. Née sous une bonne étoile, évidemment, j'ai fait énormément de recherches parce que j'étais rencontrée beaucoup d'enseignants, beaucoup de CPE, des directeurs d'école, des infirmières d'école, des orthophonistes, des élèves. Donc j'ai besoin d'aller sur le terrain pour certains sujets parce que je ne veux pas me tromper, que je veux dire la vérité ou une certaine forme de vérité. Et j'ai envie que ça touche et résonne au sein du maximum de monde. Donc tous les romans n'ont pas forcément... vocation à faire beaucoup de recherches, mais c'est vrai que j'ai aussi besoin, ça me rassure, de me dire j'ai une phase de lecture avant d'écrire, et donc toutes mes lectures sont sur un thème particulier. Donc là, pour mon nouveau roman, je ne lis qu'un thème particulier de témoignages, de journaux intimes, de récits, d'essais, parce que ça me nourrit, et que quand je me lance dans ma petite chambre d'hôtel pendant 2 semaines, porte fermée, je sais que j'ai raison, mais je ne sais plus pourquoi. Mais est-ce que je l'ai lu, je l'ai emmagasiné et ça ressort d'un coup. C'est comme des phrases, aujourd'hui, vous avez un certain type de vocabulaire, et si je devais, l'année prochaine, parler de quelqu'un qui est à peu près votre âge, j'essaierais de replonger dans les petits mots que vous avez pu utiliser plus que moi, pour sonner le plus juste possible. Donc c'est aussi là où je fais des recherches pour être le plus juste. Merci Emma.
Bonjour, je m'appelle Maxence et ma question c'est quel est le rôle d'une maison d'édition ?
Ah, super question. Merci Maxence. Alors moi j'ai même découvert ce qu'était une maison d'édition, mais j'aurai plus de 30 ans. Hein. Pour moi j'ai acheté un livre, un parce qu'on me demandait à l'école de l'acheter et puis j'avais jamais remarqué que livre de poche ça voulait dire quelque chose. C'est un rôle crucial d'accompagnement aussi. C'est-à-dire que moi j'ai commencé par j'ai un parcours assez atypique dans le sens où j'ai commencé par m'auto-éditer. La première fois quand j'étais en Italie pendant 4 mois où j'ai écrit mon roman, mon mari m'a dit c'est super, j'ai fait le lire à ma meilleure amie qui m'a dit c'est super, je les ai pas cru, mais tellement que je me suis dit je peux pas leur faire confiance, ils sont là pour moi parce que je suis dans une passe un peu difficile, ma cousine, changement de pays, etc. J'ai besoin d'avoir l'avis honnête, sincère de lecteurs qui ne me connaissent pas, qui sont neutres. Et donc j'ai cherché sur internet et je me suis dit tiens, si je mettais mon roman, donc mon document Word, sur une plateforme d'auto-édition, ça serait directement possible d'être lu pour des lecteurs qui paieraient 2,99 €. Et après, ils me donneraient un avis. Ils me diraient, tiens, j'ai bien aimé ça, j'ai moins aimé ceci. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais mis mon adresse email à la fin de mes livres pour avoir le retour direct des lecteurs. Et en fait, je n'avais pas prévu le coup, mais ça a tout de suite pris, marché donc sur le site où je m'étais auto-édité qui s'appelle KDP, c'est un site d'Amazon. Et quand j'ai été numéro 1 de cette plateforme, c'est là où les maisons d'édition sont venues me chercher pour que mon livre existe pas seulement en ligne, mais aussi dans toutes les librairies de France. Et donc le rôle d'une maison d'édition, c'est donc de récupérer un texte, enfin de trouver des auteurs, de les faire travailler sur des textes. Donc moi, par exemple, j'ai mon idée et j'ai un truc très clair dans ma tête, je pense l'avoir mis, je fais lire à mon éditrice, et là, elle me dit, ça serait quand même bien que tu écris cette phrase. Je suis allée 10 fois dans le roman, elle me fait, 10 fois tu passes à côté, mais tu ne l'as pas dite une seule fois. Ah, donc du coup, elle a un regard extérieur, elle peut m'aider à affiner le texte pour que ça soit possible pour vous de le lire et de mieux le comprendre. Donc elle a un rôle d'accompagnatrice, elle a un rôle aussi de coach un peu, parce que moi, j'ai besoin de me sentir sûre de moi quand j'écris, et elle a dit, mais t'inquiète pas, tu vas y arriver. Donc vraiment, je me sens entourée. Et derrière, c'est eux qui impriment, qui font corriger le texte, qu'ils mettent en page, en composition, qu'ils l'impriment, qu'ils utilisent un diffuseur qui va le mettre dans toutes les librairies. Et derrière, moi, j'ai la chance d'avoir aussi un soutien marketing. Donc, on a ma tête sur les bus, dans les gares, parfois à la radio. Et puis, j'ai une attachée de presse qui peut me trouver des super entretiens, voilà, avec des journaux, ou alors en radio ou en télé. Donc, en fait, d'un seul coup, tu n'es plus tout seul. Parce que quand je me suis auto-éditée, c'est quand même moi qui ai écrit le texte. J'ai fait ma couverture Vichy toute seule, j'ai trouvé mon titre toute seule, j'ai fait ma 4e de couverture toute seule, j'ai mis ma photo toute seule dans le profil, je répondais limite toute seule à certaines sollicitations. D'un seul coup, ça devient un travail d'équipe, et t'es entourée, et t'es défendue, et ils t'organisent des événements avec des libraires pour pouvoir parler de ton texte. Donc ça te permet d'exister, et c'est eux qui me payent du coup. Ce qui est quand même pas négligeable, et ils me payent en avance. C'est-à-dire que, par exemple, pour le prochain roman, ils me donnent une certaine somme d'argent qui correspond à, je sais pas, j'ai n'importe quoi, à 100 000 exemplaires vendus. Donc j'ai aussi intérêt à, si jamais j'en vends 50 000, ils vont pas me demander d'argent, mais c'est à eux de pas se tromper. Et puis derrière, si jamais je vends plus, bah, ils me donneront encore plus d'argent. Mais si jamais j'en vends pas beaucoup, le prochain contrat, bah, il sera 2 fois moindre, et ils investiront plus tellement sur moi.
Bonjour, moi c'est Antonin. Et je voulais savoir combien avez-vous vendu de livres ?
Ah oui, c'est beaucoup. Alors vraiment, quand je me suis auto-éditée et que je voulais l'avis de quelqu'un, je me suis dit, j'adorerais avoir 100 lecteurs. Mais c'était vraiment déjà, tu te dis, tu es dans ta cuisine en train d'écrire un bout de truc, tu te dis, s'il y a 100 personnes qui sont prêtes à payer pour me lire, c'est énorme. Et toute seule, quand je me suis auto-éditée, j'en avais réussi à en vendre 24 000, ce qui me semblait déjà une montagne énormissime. Après Mémé, quand il a été récupéré par un éditeur en grand format, il avait fait 10 000. Quand il est sorti en poche, il a dépassé le million. Et après, les autres ont suivi dans cette spirale positive, parce que ceux qui avaient aimé le premier ont lu le deuxième. Et aujourd'hui, je serais incapable de donner un chiffre exact, mais c'est peut-être plus que 4 millions. Mais je ne sais pas, ça fait beaucoup. Je peux pas le mesurer. Enfin, tu te dis que c'est pas possible, tu as envie de recompter les gens. Là, je vais à Saint-Malo. Enfin, je pars de Saint-Malo au relais, il n'y a pas un livre à moi dedans. Mais où est-ce que les gens me trouvent et me lisent ? Enfin, je sais pas. Donc le chiffre, quand je te le donne, j'ai presque honte parce que ça me semble démesuré. Mais je crois que c'est le bon chiffre.
Bonjour, je m'appelle Adrien. Et ma question, c'est est-ce que vos livres sont traduits ? Et si oui, en quelle langue ?
Merci Adrien. Donc effectivement, je crois que mes livres sont traduits dans 14 pays ou 14 langues. Même ça, je suis pas très, très claire. Je connais même pas tous mes pays. Portugal, Espagne, Italie, Néerlandais, Allemagne. Je dois avoir aussi République tchèque, Pologne, Russie, Chine, Corée, Israël, il me semble aussi. Je l'ai en anglais aussi, donc tu peux avoir Amérique, États-Unis, Angleterre. Est-ce que j'ai autre chose ? Canada, enfin québécois. Parfois, il y a les expressions, il faut les retraduire. C'est déjà pas mal.
Le bilan est très positif chez le professeur et ses élèves, qui sont ravis de cette rencontre. Et Aurélie Valogne se dit très émue de l'intérêt que son livre a pu susciter chez cette classe.